Le billet disparu par Rodriguez Otolenghi. Si je comprends bien, Mr. Van Rolston, vous êtes convaincu qu'un billet de 1000 livres sterling est quelque part dans cette pièce, et néanmoins, vous êtes incapable de le retrouver. En d'autres termes, vous vous demandez si une chose peut être perdue lorsqu'on sait où elle se trouve. Mr. Van Rolston plissa le front avec impatience. C'était un homme d'une 50aine d'années, au visage grave, de grand brasseur d'affaires. Ce financier puissant, de renommée et d'intégrité éprouvée, passé maître dans l'art d'administrer d'opulentes fortunes, n'en était que plus irrité par le mystère, portant sur un détail insignifiant en apparence, qui venait le troubler dans ses fonctions d'exécuteur testamentaire pour la dévolution d'une succession dont faisait partie le billet de 1000 livres. C'est donc avec une certaine sécheresse de ton qu'il répliqua. « Oui, je comprends que pour un homme comme vous, cette affaire ne semble guère digne d'intérêt. Mais moi je brûle d'avoir le mot de l'énigme. Mr. Barnes, le meilleur détective professionnel de New York, a passé des heures à fouiller cette pièce sans succès. En désespoir de cause, j'ai pensé à vous, à votre intelligence lucide et analytique, et je vous ai envoyé ce message. Mais si vous êtes d'humeur à tout tourner à la blague, mille excuses !» fit l'autre en s'asseyant dans un des fauteuils en chêne sculpté de la bibliothèque. « Une pour chaque livre sterling de votre billet. Veuillez me pardonner, je vais être sérieux. Votre mot m'est parvenu très tard, car je ne suis pas retourné chez moi avant l'heure du dîner. Une demi-heure après l'avoir lu, j'étais ici. Occupons-nous donc de ces 1000 livres. Êtes-vous sûr qu'elles se trouvent dans cette pièce ? C'est là, précisément, que réside le mystère. J'avais la banknote en main ce matin, et en quelques minutes, elle s'est volatilisée. Elle a semblé se volatiliser. Du moins, je présume que c'est ce que vous voulez dire. Il est difficile d'employer le verbe « sembler » en pareil cas. C'était un simple billet de banque. Je l'ai posé sur cette table. 5 minutes plus tard, il avait disparu. Disparu est un terme que je préfère de beaucoup. Je peux croire qu'il soit sorti de votre champ de vision. La question qui se pose est la suivante. Comment cette disparition a-t-elle eu lieu ? Car je ne pense pas qu'elle ait été accidentelle. D'après ce que vous venez de me dire, je déduis qu'il y avait au moins 2 personnes, sans vous compter, présentes dans cette salle au moment de l'événement. Suis-je dans le vrai ? Oui, mais je ne vois vraiment pas comment vous avez pu deviner qu'il y avait plus d'une personne en dehors de moi. Il ne peut en être autrement. S'il n'y avait eu qu'une seule autre personne, vous sauriez de façon certaine qu'elle a pris le billet. Du moment que vous avez un doute, c'est que vous soupçonnez 2 individus, ou davantage. Mon cher Mitchell, je suis enchanté d'avoir fait appel à vous. Vous êtes exactement l'homme qui retrouvera l'argent. Et Barnes, vous avez mentionné son nom. Oui. Ma première pensée fut d'envoyer chercher un détective. Je me suis souvenu de lui à cause de ce vol de rubis qui avait eu lieu chez moi précédemment et dont vous vous êtes occupé. Barnes est actuellement sur une piste qu'il croit excellente et il doit venir ici dans la soirée pour me tenir au courant. Mon Dieu! Rien ne me plairait plus que de réussir là où Barnes échoue. Chaque succès que je remporte sur lui amène de l'eau à mon moulin et constitue un argument de plus en faveur de ma théorie selon laquelle le détective professionnel a une réputation surfaite. Mais racontez-moi donc toute l'histoire, en prenant bien soin de n'oublier aucun détail. Il se tut et s'appuya au dossier capitonné de son fauteuil. Son profil sombre et net était celui d'un lettré, d'un artiste, de tout sauf d'un détective. Et en fait, Mr. Robert Leroy Mitchell était à la fois un lettré et un artiste, bien que depuis quelques années, il eût utilisé son pouvoir d'analyse éprouvé pour étudier le crime, ses mobiles et ses aspects divers. C'est ainsi que cet amateur avait réussi à résoudre les problèmes posés par certains délits qui avaient complètement déjoué la perspicacité des professionnels. S'occuper d'une affaire aussi insignifiante que la disparition d'un billet de 1000 livres après avoir débrouillé des énigmes sur la vie et la mort, sur des larcins de plusieurs millions ou sur la disparition de bijoux de la couronne, eût semblé une déchéance pour un détective ordinaire. Mais pas pour Mr. Mitchell, lequel évaluait l'intérêt d'un mystère moins d'après la somme en jeu que relativement aux possibilités qui lui donnaient de se livrer à un exercice de subtile analyse. Il lui suffisait d'écouter le récit de Mr. Rolston pour se rendre compte que le cas en question était plein de promesses de ce genre. Il y a 30aine d'années ou davantage, commença Mr. Van Rolston, Un jeune Anglais qui se présente à moi sous le nom de Thomas Eggleston fut introduit dans mon bureau. L'objet de sa visite était des plus curieux. Il voulait m'emprunter 4 000 $ contre un dépôt en garantie qui n'était autre qu'un billet de 1 000 livres anglaises. Cette requête était bizarre en soi, attendu qu'il aurait pu échanger ses sterling contre de la monnaie américaine à la première banque venue. Mais il m'expliqua que pour des raisons sentimentales, il ne voulait pas se débarrasser définitivement du billet en question. Il avait l'intention de me rembourser sa dette plus tard et de conserver cette banknote en souvenir, car il la considérait comme la première pierre d'une fortune qu'il espérait édifier en Amérique. « Un client comme on n'en voit pas tous les jours, » l'interrompit Mr. Mitchell. « Vous l'avez dit. » Naturellement, cette bizarre demande piqua ma curiosité. Je consentis à lui faire cette avance de fonds sans accepter d'intérêt. Je lui indiquai même certaines spéculations. Elles réussirent si bien qu'il ne tarda pas à reprendre possession de son billet de 1 000 livres. Nous nous liâmes d'amitié. Je pris l'habitude de venir le voir presque chaque jour ici, chez lui, et lorsqu'il mourut, il y a quelques jours, je ne fus nullement surpris d'apprendre qu'il m'avait nommé son exécuteur testamentaire. Inutile de dire qu'il laisse une succession importante. Et les héritiers? J'allais y arriver, repartit Mr. Van Rolston. Mon ami est décédé subitement. Samedi dernier, il se portait encore comme un charme. Lundi, il n'était plus. Mercredi matin, le jour des obsèques, son homme d'affaires me remit le testament. En ma qualité d'exécuteur, je convoquai la famille ce matin pour assister à la lecture des dernières volontés du défunt. Nous nous réunîmes ici dans la bibliothèque. Cette famille se compose en tout de 2 personnes. La première est Alice Hetheridge, la fille d'une sœur d'Eggleston, qui l'avait accompagnée aux États-Unis et s'y était mariée. Comme cette dame et son mari étaient morts lorsqu'Alice n'était encore qu'une petite fille, l'oncle l'avait élevée et chacun pensait qu'il lui laissait toute sa fortune. Le seul autre parent qui se soit présenté est Robert Eggleston, le neveu du défunt. Il n'était jamais venu dans notre pays et n'avait jamais vu son oncle jusqu'à il y a 3 mois environ, époque à laquelle il s'installa chez lui. Mais vous n'avez mentionné que 2 parents. Pourtant, je crois vous avoir entendu dire tout à l'heure qu'il y avait 3 personnes présentes. C'est bien exact. Lorsque j'arrivais, je fus surpris de trouver ici un New-Yorkais nommé Arthur Lumley, jeune homme dont je ne sais rien, sauf qu'il est l'ami de cœur d'Alice. La jeune fille me prit à part et m'expliqua qu'elle l'avait invité, si bien que je n'osais rien dire. J'en arrive maintenant à l'événement extraordinaire qui nous occupe. Je vous en prie, soyez aussi explicite que possible, insista Mr. Mitchell. N'omettez aucun détail, même insignifiant. Lorsque nous eûmes pris place à cette table, je demandai à Alice, pour qui les lieux étaient familiers, d'aller me chercher un certain coffret mentionné dans le testament, ce qu'elle fit. Je l'ouvris avec la clé, qui m'avait été remise en même temps que l'acte des dernières volontés. J'en sortis un pli contenant un billet de 1 000 livres sterling, celui-là même sur lequel j'avais prêté de l'argent au défunt. Il y avait aussi des rangs d'états et des obligations des chemins de fer. Après les avoir collationnés avec la liste jointe au testament, je commençai à lire à voix haute les dernières volontés de mon regretté ami. Je vais d'ailleurs vous en communiquer certains passages qui vous éclaireront peut-être sur la situation. « Un moment, » intervint Mr. Mitchell, « vous avez dit que le pli tiré du coffret contenait et le billet de banque et les rentes d'État et autres valeurs. Êtes-vous bien sûr que cette banknote s'y trouvait ?»« Oh oui. » Ce fut elle que je découvris en premier. Je la plaçai sur la table devant moi et me suis mis à vérifier les autres valeurs. Puis je lus le testament. Au terme de ce document, Robert Eggleston était déclaré légataire universel. Il héritait pratiquement de tous les biens, décision qui aura pu paraître injuste, n'eût été le paragraphe suivant. Mr. Van Rolston commença alors à lire un extrait du testament, dans lequel Eggleston expliquait pourquoi sa nièce Alice, qu'il aimait beaucoup, n'était pas son héritière. Le défunt racontait comment, lorsqu'il était encore un très jeune homme, il avait été secouru par son demi-frère William, un homme fort riche, de 10 ans son aîné, qui lui avait payé la traversée pour venir à New York et remis un billet de 1 000 livres, lequel avait servi de point de départ à sa fortune. William n'avait jamais voulu accepter le remboursement de cet argent, bien que son frère ait conservé à cette fin la banknote originaire. Finalement, le frère aîné était décédé subitement, n'ayant pu survivre à une spéculation malheureuse où toute sa fortune avait été engloutie. Avant sa mort, ajoutait-il, William avait remis à son fils Robert une lettre d'introduction pour son oncle d'Amérique. Il y demandait à son frère de réserver à son fils une part de la fortune résultant de cette aide initiale de 1000 livres. Le défunt conclut en ces termes « J'accueille Robert dans ma demeure et la vérité m'oblige à dire qu'il n'a guère su se faire aimer de moi. Cependant, je reste peut-être victime d'une idée préconçue, attendu que j'avais résolu de laisser tous mes biens à ma nièce Alice et qu'il contrecarrait ce projet. Afin de lui rendre justice et de libérer ma conscience, je me vois dans l'obligation de léguer au fils de William la fortune acquise grâce aux libéralités de William. Cependant, le billet de 1000 livres originaire qui m'a été remis à titre de don, je puis certainement en disposer comme il me plaît. C'est pourquoi je demande à ma nièce Alice de l'accepter, car ma conscience m'autorise à le considérer comme mon propre bien. Curieux et intéressant, commenta Mr. Mitchell. Maintenant parlez-moi de la disparition de cette banknote. C'est là que la difficulté commence. J'ai si peu à vous dire à ce sujet. Après avoir lu le testament, je le posai sur la table et j'étendis la main, afin de donner le billet à Alice. Sur ce, je m'aperçus qu'il avait disparu. Dites-moi exactement où se trouvait chaque personne. Nous étions tous assis autour de cette table qui, comme vous le voyez, est petite. Moi, là où je suis en ce moment, Alice à ma droite, le jeune Eggleston à ma gauche et Lumley face à moi. Si bien que n'importe lequel des trois pouvait facilement atteindre le billet lorsque vous l'avez posé sur la table. Cela complique le problème. Voyons, lorsque vous avez constaté sa disparition, qui a parlé le premier? En quels termes? Je ne me souviens pas exactement. J'étais abasourdi, et les autres semblaient aussi surpris que moi. Je me rappelle qu'Eggleston demandait à Alice si elle l'avait pris, et qu'il ajouta « Il vous appartient, vous savez ». Lumley ne dit rien, mais nous regarda comme s'il cherchait une explication de l'énigme. Ensuite, en homme pratique qu'il était, Eggleston proposa que les personnes présentes fussent fouillées. Si aucun de nous n'avait la banknote sur soi, on pourrait en conclure qu'elle avait simplement été emportée par un courant d'air, et on la retrouverait par une recherche méticuleuse. Comme vous vous en souvenez, lors de circonstances analogues, j'avais interdit que l'on fouillât mes invités, ce qui m'avait amené toutes sortes d'ennuis. C'était à l'occasion de cette affaire de vol de rubis, et l'homme qui avait proposé la vérification avait le bijou sur lui. C'est pourquoi, lorsque Eggleston fit cette proposition, j'acceptais, et je commençais par lui. Ce fut une fouille complète, je vous l'assure, mais je ne trouvais rien. Je n'eus pas plus de succès avec Lumley. J'examinai même mes propres poches dans le vague espoir d'y avoir mis le billet par inadvertance. Mais toutes ces investigations furent vaines. Ne pensez-vous pas qu'un de ces deux hommes ait pu dissimuler le billet quelque part pour en reprendre possession après mon enquête? J'ai pris soin d'écarter cette possibilité. Lorsque j'en eus terminé avec Eggleston, je le fis sortir de la pièce sans plus de cérémonie. J'agis de même avec Lumley. Depuis, aucun d'eux n'a remis les pieds ici. Et la jeune fille? Il serait absurde de la soupçonner. Le billet était sa propriété. Cependant, elle insista pour être fouillée, et j'examinai le contenu de la poche de son jupon. Ah, vous n'avez examiné que sa poche? Oui, en de telles circonstances, vous ne pouviez faire autre chose. Ainsi, ayant fait sortir les trois intéressés de cette pièce, vous en concluez que la banknote est toujours ici. C'est une déduction logique, mais j'aurais préféré que la jeune fille eût été fouillée plus sérieusement. À propos, vous m'avez dit que Mr. Barnes vous avait aidé à examiner cette pièce. Comment voit-il les choses? Avant que Mr. Van Rolston ait pu répondre, on entendit un coup de sonnette impératif à la porte d'entrée, et un instant plus tard, Mr. Barnes lui-même était introduit. Le trio était maintenant au complet. Les trois hommes qui s'étaient si souvent penchés ensemble sur la solution du mystère étaient réunis. Comme d'habitude, l'arrivée de Mr. Barnes fut le signal d'une joute intellectuelle entre le détective professionnel et l'expert criminaliste, chacun cherchant à prouver la supériorité de sa méthode. Aujourd'hui, le détective semblait avoir pour l'instant l'avantage. Avec une autorité qui semblait fondée sur une connaissance réelle des faits, il tourna en ridicule la théorie de Mr. Mitchell, selon laquelle l'affaire était plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Puis il se mit à exposer, point par point, les éléments du problème tels qu'il le voyait. C'était à savoir, primo, la banknote avait été ou égarée ou volée. Secondo, si elle avait été égarée, on l'aurait retrouvée. Tertio, si elle avait été volée, trois personnes pouvaient être les auteurs du larcin. Quarto, l'une de ces personnes était propriétaire du billet, la deuxième venait d'hériter une grosse fortune, la troisième seule devait être soupçonnée. Mr. Mitchell se déclara d'accord en principe, mais non sans soulever un certain nombre d'objections. D'abord, on avait vu des gens voler leurs propres biens. En second lieu, des hommes très riches étaient parfois voleurs. En troisième lieu, Mr. Lumley, étant amoureux de la propriétaire du billet, semblait aussi insoupçonnable qu'elle l'était elle-même. Néanmoins, il y avait lieu de considérer que Lumley avait bien pu dérober le billet avant d'entendre annoncer que sa bien-aimée en héritait. Auquel cas, il n'avait pas eu la possibilité de le restituer, malgré son désir éventuel de le faire, sans se mettre dans une situation gênante. Mais alors, la question était de savoir comment il aurait pu quitter cette pièce avec le corps du délit. « Il a dû le cacher ailleurs que dans sa poche, » assura Mr. Barnes. « Dites-vous bien qu'il est impossible de fouiller soigneusement un homme en présence du beau sexe. Quoi qu'il en soit, j'ai de sérieux motifs de croire qu'il a volé ce billet, comme vous allez le voir. » Les arguments qu'il développa semblaient effectivement corroborer sa théorie sans laisser place au doute. Car en filant Mr. Lumley, il avait découvert que l'amoureux d'Alice Etheridge, amoureux qui, entre parenthèses, ne roulait pas sur l'or, s'était rendu directement chez son patron pour démissionner. Ensuite, il s'était présenté à un bureau d'affaires où il avait pris option sur l'achat d'une part d'associé dans une entreprise florissante, son apport étant fixé à 5 000 $. De là, Mr. Barnes en personne l'avait suivi jusqu'à la gare centrale de New York, où il avait pris le train. « Il est parti il y a environ 2 heures, » conclut le détective. « Pour quelle destination, je l'ignore. Mais un de mes hommes s'est attaché à ses pas et me fera son rapport dans... » Il tira sa montre. « Dans une demi-heure. Par conséquent, je n'ai pas de temps à perdre. » Et il prit congé. Après son départ, Mr. Mitchell, qui ne semblait nullement impressionné par la victoire apparente de Mr. Barnes, adressa à son ami une étrange requête. Il ne se proposait rien moins que de passer la nuit dans la bibliothèque qui avait été le théâtre de ce vol bizarre, et ce, à l'insu d'Eggleston et de Miss Etheridge. Von Rolston regarda son ami d'un air interrogateur. « Je vois, dit-il finalement, que vous voulez mener votre propre enquête, hein ? Très bien. Je vais tout arranger pour que personne ne se doute de quoi que ce soit. À propos, étant donné que la bibliothèque doit être mise aux enchères ici même, demain, Eggleston en avait fixé la date et le catalogue avant sa mort, il serait bon par conséquent que le mystère soit résolu le plus tôt possible. En attendant, il est 9 heures et j'ai besoin de repos. Je rentre donc chez moi. Je vous retrouverai demain matin. » Avant de quitter la maison du défunt, Mr. Van Rolston prit le temps de se livrer à une petite enquête. Il apprit que le jeune Eggleston était absent et que Miss Etheridge était dans sa chambre. Il renvoya alors le domestique et enferma Mr. Mitchell dans la bibliothèque. Il monta ensuite à l'étage au-dessus pour prendre congé de Miss Etheridge et lui dit qu'il avait pensé qu'il valait mieux fermer à clé la porte de la bibliothèque. Il lui souhaita une bonne nuit et sortit. Dans la rue, il tendit la clé à Mr. Mitchell par la fenêtre de la façade. Demeuré seul dans cette étrange maison, Mr. Mitchell se laissa tomber dans un fauteuil et commença l'analyse de la situation. Il n'alluma pas le gaz afin de ne pas trahir sa présence. D'ailleurs, un bon feu brûlait dans la grille qui jetait une lueur suffisante pour qu'il pût se rendre compte de la disposition des lieux. La longue bibliothèque occupait la moitié de la façade. Ensuite, il y avait le hall de l'entrée et les salons. En plus des fenêtres donnant sur la rue, il y en avait d'autres qui ouvraient sur une courette intérieure. Il prit même la peine d'observer qu'elle se trouvait juste au-dessus d'un appentis qui devait servir de buanderie. Son examen terminé, il retourna à son fauteuil et repassa mentalement les incidents qui venaient de lui être relatés. Une ou deux remarques lui semblèrent dignes d'être notées. Barnes prétend, se dit-il, que Lumley a peut-être pris le billet avant de savoir qu'il avait été légué à sa bien-aimée. Mais le même argument est valable pour la jeune fille elle-même et permettrait d'expliquer qu'elle ait pu voler son propre bien. Voici donc un point d'importance à ne pas oublier. Mais le mieux serait de trouver le billet lui-même. Pourquoi me donner la peine de chercher toute la nuit, alors qu'il me suffit sans doute d'attendre tranquillement que le voleur lui-même sorte le billet de sa cachette, en supposant toujours qu'il soit dans cette pièce. Décidément, la patience est la vertu la plus utile. En l'occurrence, je n'ai qu'à attendre. 2 heures plus tard, Mr. Mitchell, qui s'était assoupi, fut réveillé en sursaut. Il se rendit compte que quelque chose l'avait dérangé, sans qu'il pût savoir exactement quoi. Puis il entendit un bruit qui ne laissait pas place au doute. On mettait une clé dans la serrure. C'était peut-être le voleur. À cette pensée, il retrouva toutes ses facultés. Sans perdre une minute, il se cacha dans les plis d'une lourde draperie qui servait, en cas de besoin, à partager la pièce en deux. La porte s'ouvrit et Mr. Mitchell entendit un pas furtif. D'abord, il ne put voir la personne qui venait d'entrer, mais sa curiosité ne tarda pas à être satisfaite. Une jeune femme au visage candide passa près de lui et se dirigea vers la cheminée. Elle portait un élégant déshabillé. Ses longs cheveux défaits tombaient en masse ondulée sur son dos. Elle s'appuya contre le manteau de la cheminée et resta quelques minutes immobile à regarder danser les flammes dans l'âtre. Puis, faisant brusquement volte-face, elle traversa la pièce et se dirigea droit vers l'une des étagères à livres. Là, elle s'arrêta et enleva plusieurs volumes qu'elle posa sur une chaise voisine. Elle tournait le dos à Mr. Mitchell, mais il la vit étendre le bras dans l'intervalle ainsi obtenu. Ce faisant, sa manche large glissa et découvrit la nudité de sa peau. Il entendit un déclic à peine perceptible et pensa « Un ressort secret qui ouvre une cavité dans la muraille. » Un instant plus tard, la jeune fille remettait les livres à leur place et sortait de la bibliothèque d'un pas rapide. Elle referma la porte à clé. Mr. Mitchell sortit de sa cachette et alla se poster exactement à l'endroit qu'elle venait de quitter. À son tour, il enleva les livres du rayon et chercha le ressort qui ouvrirait la cachette. Il eut beaucoup de mal à le trouver. Mais c'était un homme patient et obstiné. Au bout d'une heure d'effort, il réussit à faire glisser un panneau, découvrant une cavité où il y avait une enveloppe. Mrs. Mitchell la prit et alla s'agenouiller près du feu pour l'ouvrir. Elle contenait un billet de la Banque d'Angleterre, un billet de 1000 livres. Il le regarda en riant et dit à voix basse. « Quand je pense que Mr. Barnes était certain d'avoir trouvé le voleur. » Il sourit à nouveau, remit les livres sur le rayon, et alla s'étendre sur un grand canapé qui lui promettait un repos confortable. Il ne tarda pas à s'endormir. Il fut éveillé de bonne heure par une sensation de froid. Il sursauta et resta un moment à se demander où il était. Il regarda les cendres grises, tout ce qui restait du feu qui avait brûlé dans la grille de la cheminée, puis les croisées couvertes d'une épaisse couche de buée givrée, et il frissonna. Se souvenant enfin de l'endroit où il se trouvait, il se mit à faire les 100 pas dans la grande pièce en agitant les bras pour se réchauffer un peu et rétablir la circulation de son sang. Il s'approcha ensuite des fenêtres de derrière et contempla les magnifiques arabesques de givre qui ressemblaient à des feuilles de fougère. Soudain, ce motif décoratif sembla l'intéresser vivement. L'une des vitres parut attirer particulièrement son attention. Il l'examina soigneusement et sortant un carnet de sa poche, entreprit d'en faire un croquis rapide. Puis il ouvrit la croisée et regarda le toit de la pentille juste au-dessous. Il émit un long sifflement. Il passa par la fenêtre et progressa à genoux sur le toit de tôle en pente douce, où il examina attentivement quelque chose. De retour dans la bibliothèque, il se livra à une occupation tout à fait inattendue. Il rouvrit le panneau secret et remit l'enveloppe avec la banknote. Alla s'asseoir à la table, le billet s'était volatilisé et sur le siège occupé par Mr. Van Rolston au moment de la lecture du testament. Plusieurs heures plus tard, lorsque Mr. Van Rolston revint, Mr. Mitchell était toujours assis au même endroit et lisait une Bible. « Eh bien, fit Mr. Van Rolston, comment avez-vous passé la nuit? Le voleur vous a-t-il rendu visite? Je le crois, répondit Mr. Mitchell. « Alors, vous savez qui a pris la banknote ?» demanda Mr. Van Rolston, très intéressé. « Peut-être. Je me méfie des conclusions hâtives. Dites-moi, voici une Bible magnifique, Mr. Van Rolston. Doit-elle être mise en vente aujourd'hui ? Si oui, je suis décidé à enchérir. »« Oui, oui, elle est bien à vendre. acquiesça Mr. Van Rolston avec humeur, car il s'imaginait que son ami cherchait seulement à changer le sujet de la conversation. En ce moment, il s'intéressait plus aux billets de 1000 livres qu'aux Bibles. Il ne pensait pas que Mr. Mitchell pût être tenté par ce volume. Il ignorait alors que son ami collectionnait les livres aussi bien que les pierres précieuses. Il n'en fut que plus surpris, quelques heures plus tard, tandis que la vente battait son plein, lorsqu'il vit Mr. Mitchell mettre de fortes surenchères sur la Bible. Au début, la vente avait été sans histoire, jusqu'au moment où Mr. Mitchell avait offert $500 pour le volume. Après un moment d'hésitation, le jeune Eggleston rajouta $50, et il apparut que la bataille allait se livrer entre le neveu du défunt et le policier amateur. Augmentant leur enchère de $50 chaque fois, ils arrivèrent à $900 quand le jeune Eggleston annonça « 950 !» puis se tournant vers Mr. Mitchell, il ajouta « C'est une relique de famille, monsieur, et j'espère que vous ne pousserez pas davantage. » « Cette vente est ouverte à tous, il me semble, » rétorqua Mr. Mitchell en s'inclinant d'un air froid. « Qui m'empêchera de mettre $1000 ?» À ce moment-là, Mr. Barnes entra dans la pièce accompagné par un jeune homme de petite taille, et Mr. Mitchell sembla oublier l'existence de la Bible. Le commissaire-priseur, s'apercevant de sa distraction, l'appela par son nom pour lui demander s'il ne voulait pas renchérir à nouveau. « Un instant, je vous prie, » jeta Mr. Mitchell. « Puis-je jeter encore un coup d'œil sur ce livre ?» On le lui passa, et il fit mine de l'examiner sous toutes ses faces. Soudain, il tressaillit légèrement, comme s'il venait de faire une découverte, et le rendit en disant « Je me suis trompé. Je croyais que c'était une sequine authentique, et je m'aperçois qu'il s'agit seulement d'une réimpression. » Puis il se tourna vers Eggleston et lui dit avec un sourire bizarre « Vous pouvez garder votre relique de famille, je ne pousserai pas davantage. » Une fois la vente terminée, la foule dispersée et tous les étrangers partis, Mr. Mitchell fit un signe de tête éloquent à Mr. Barnes et s'approcha du jeune Eggleston qui enveloppait la Bible dans du papier. Il lui toucha le bras et déclara calmement « Mr. Eggleston, je dois demander à la police de vous arrêter. » Les doigts d'Eggleston, occupés à faire un nœud, furent pris d'un tremblement. L'homme semblait trop ému pour pouvoir parler. Comprenant que Mr. Mitchell avait résolu le problème, le détective s'approcha vivement. « Que signifie ceci ?» demanda Mr. Rolston. « Veuillez appeler Miss Etheridge et je vous expliquerai, » répondit Mr. Mitchell. « Non, non, pas devant elle !» implora Eggleston, perdant complètement contenance. « J'avoue que j'aimais Alice et que je voulais rendre impossible son mariage avec l'homme laid. Le billet est là, là, dans la Bible. Je l'ai volé et je l'ai caché. » Ses doigts nerveux déchirèrent le papier enveloppant le volume et tournèrent rapidement les pages. « Ciel, il n'y est pas !» Il regarda Mr. Mitchell d'un air angoissé. « Non, il n'y est pas. Vous avez payé cette Bible trop cher, Mr. Van Rolston. Je préfère que vous alliez chercher Miss Alice, s'il vous plaît. » L'exécuteur testamentaire quitta la pièce et Mr. Mitchell s'adressa à Mr. Barnes en ces termes. « À propos, Barnes, avez-vous abandonné votre théorie ?»« C'est tout ce qui me reste à faire maintenant. Pourtant, tout à l'heure encore, je croyais dur comme fer qu'elle était exacte. Mes hommes m'ont indiqué où se trouvait Mr. Lumley. Je l'ai rejoint et accusé du vol. Il a nié, mais sans pouvoir me donner aucune explication de sa conduite. Il a cependant consenti à m'accompagner ici. « Je crois que nous sommes arrivés au bon moment, » dit calmement Mr. Lumley. « Exactement à l'instant crucial. Ainsi que vous allez pouvoir vous en rendre compte, » confirma Mr. Mitchell. « Ah, voici Miss Etheridge. » Il s'inclina courtoisement tandis que la jeune fille s'asseyait, puis elle reprit. J'étais à peu près sûr que la banknote n'avait pas quitté cette pièce. Pourquoi ? Parce que le voleur avait dû nécessairement la dérober et la dissimuler en un très bref laps de temps. Seul, Miss Etheridge avait pu la cacher dans les plis de sa robe. Les poches des hommes semblaient trop difficiles à atteindre sans que le geste fût aperçu. Je partageais l'opinion de Mr. Barnes, selon laquelle le billet avait difficilement pu être volé par celle à qui il appartenait, sauf dans le cas où elle eût ignoré qu'il allait lui revenir. Pour une raison analogue, je mets Mr. Lumley hors de cause et ainsi, par élimination, il ne restait qu'une seule personne vraiment suspecte. Je pensais que l'intéressé reviendrait la nuit pour récupérer le corps du délit et je suis resté ici pour le surprendre. En entendant ces mots, Miss Etheridge remua les lèvres comme si elle allait parler, mais elle resta muette et sembla se contracter. Pendant la nuit, poursuivit Mr. Mitchell, Miss Etheridge entra dans la bibliothèque et y cacha quelque chose. Lorsqu'elle fut partie en refermant la porte avec sa clé, je découvris ce qu'elle avait dissimulé, un billet de 1000 livres sterling. Il y eut un moment de silence, puis Miss Heatheridge s'écria « Je peux tout expliquer. » « C'est pour cela que je vous ai envoyé chercher. »« Ce billet m'appartenait, » fit la jeune fille très volubile. « Après la disparition de l'autre, je n'osais le garder dans ma chambre de peur qu'on le trouve et qu'on me croie coupable. » Mon oncle me l'avait donné quelques jours avant de mourir en me disant que son frère William le lui avait remis pour en faire cadeau à ma mère lors de son mariage. Mais n'ayant pas confiance dans mon père et craignant qu'il ne l'en dépossède, il l'avait conservé. Comme mes parents étaient morts peu après, il l'avait gardé pour me le donner. Il ne l'avait pas placé, pensant que sa fortune constituerait pour moi un héritage suffisant. Quelques jours avant sa mort, je fêtais mon 21e anniversaire et il me donna les 1000 livres. C'est l'entière vérité. « Je peux en témoigner, » déclara Mr. Lumley. Et il m'est maintenant permis d'ajouter que non seulement Miss Heatheridge m'a promis de devenir ma femme, mais qu'elle m'a offert d'utiliser cet argent pour prendre une part d'associé dans une affaire, ce qui a éveillé les soupçons de Mr. Barnes. « Il me reste donc seulement à expliquer, » reprit Mr. Mitchell, « comment je découvris que le voleur n'était pas Miss Heatheridge. Ce matin, je trouvais une épaisse couche de givre sur les vitres. Or, je remarquais, sur l'une d'elles, un endroit circulaire et transparent où les cristaux de givre avaient disparu. Immédiatement, je compris ce qui s'était passé. Le voleur, le vrai, était venu pendant la nuit. Je sais exactement à quelle heure. Il était monté sur la pentille et avait fait fondre la glace en soufflant son haleine de très près sur le carreau. Ainsi, il avait pratiqué une sorte de trou de guet, par lequel il m'avait aperçu endormi sur le canapé. Il avait compris qu'il ne pouvait pas entrer sans se faire prendre. Il me suffit alors de mesurer la distance entre la pentille et la fenêtre pour calculer sa taille, que j'estimais un peu plus d'1,80 m. Mais en outre, je découvris un indice intéressant sur le toit de tôle plane, l'empreinte des pieds de l'individu, ou plutôt de ses talons, car la couche de verglas était si mince que seule la marque des clous du talon était visible. Je comparais ces empreintes avec les miennes, lesquelles laissaient une trace en fer à cheval faite de ronds minuscules. Celle de mon prédécesseur dessinait seulement la moitié de cette courbe. J'en déduisis qu'il devait marcher légèrement en dedans, parce qu'appuyant tout le poids sur le côté intérieur de sa chaussure. Je n'eus pas de peine à éliminer Miss Heatheridge de la liste des suspects en tenant compte de ces considérations. Je remis donc la banknote dans sa cachette. Puis je m'assis à la table où on avait lu le testament et étudiai la situation. Il me sembla que le meilleur moyen de faire disparaître rapidement le billet sans être vu était de le dissimuler dans la Bible qui se trouvait à portée de la main sur cette table. Je ne fus qu'à moitié surpris lorsque je découvris effectivement le corps du délit dans le volume. Le voici. Il tira de sa poche le billet de 1000 livres et le tendit à Mr. Van Rolston qui demanda « Mais pourquoi avez-vous essayé d'acheter la Bible ?»« Je n'avais pas l'intention de l'acquérir. Vous oubliez que je n'avais pas vu Mr. Lumley. Il aurait pu avoir plus d'1,80 m et marcher en dedans, comme Mr. Eggleston le fait, ainsi que je m'en aperçus tout de suite. Pour avoir une certitude, je décidai de pousser l'enchère sur la Bible, sachant que si le neveu du défunt était coupable, il ferait tout pour s'adjuger le volume. Mr. Eggleston eut la réaction que j'attendais, et j'avais la quasi-certitude de sa culpabilité. Mais il me fit remarquer qu'il voulait acheter cette Bible en tant que relique de famille, ce qui était plausible. Je fus donc obligé de surenchérir pour voir jusqu'à quel point il était désireux de l'avoir. C'est alors, comme je l'ai dit il y a un instant, que Mr. Lumley entra, au moment crucial. Dès que je vis qu'il était de petite taille, je me désintéressai de la Bible. « Vous avez affirmé connaître à peu de choses près l'heure à laquelle l'homme vous a épié à travers la fenêtre, » insista Mr. Barnes. « Ah, je vois. Vous voulez que je vous enseigne les trucs de votre propre métier ? Eh bien, c'est très simple. » Le givre se forme sur les vitres au voisinage de 0 degré centigrade. J'ai découvert un thermomètre enregistreur sur cette étagère. À 3 heures du matin, il marquait 7 degrés au-dessus. À 5 heures, la température était tombée à -1. C'est à ce moment que le froid m'a éveillé. Notre homme a dû venir entre 4h30 et 5 heures. S'il était venu plus tôt, son trou de guet aurait été recouvert par une seconde couche de givre. Or, il s'était simplement formé une mince épaisseur de glace dû au gel de la quantité infinitésimale d'eau de fusion du givre précédent. Il n'y avait là ni dessin ni cristaux comme sur le reste de la surface de la vitre. Comme vous le voyez, conclut Mr. Mitchell, si Mr. Eggleston était arrivé avant 4 heures du matin, je n'aurais pas été assez sûr de sa culpabilité pour l'accuser formellement. Vous voyez, ajouta-t-il en souriant. Pour avoir été trahi par le givre, le coupable ne s'en est pas sorti blanc comme neige. Ainsi s'achève le billet disparu par Rodriguez Ottolenghi.